Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand nous emmène aujourd'hui dans la grande ville la plus septentrionale du monde. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Cette grande ville, c'est évidemment Saint-Pétersbourg qui, à près de 60 degrés de latitude nord, se situe pas très loin du cercle polaire arctique. Ce qui veut dire qu'en ce moment, le soleil s'y couche à peine sur l'horizon et que chaque soir, le crépuscule vient à la rencontre de l'aube. C'est ce qu'on appelle les nuits blanches et je vous assure que c'est un spectacle assez étonnant, romantique. Il y a une atmosphère un peu de folie qui s'empare comme ça de la ville. Saint-Pétersbourg a été fondé il y a 3 siècles sous l'égide du tsar Pierre le Grand. Vous savez ça. Pierre le Grand, dont la statue équestre par Falconet, continue de surveiller la Neva d'un œil impérieux. On appelle ce groupe de sculptures le Cavalier de Bronze.
Et c'est justement de Pierre le Grand que vous souhaitiez nous parler aujourd'hui.
Oui, de Pierre, de son héritage et des mœurs de la Russie de son temps. Mmh. Nous avons la chance de recevoir Hélène Carrère-Dancausse, qui connaît ce règne mieux que personne. Et pour aborder le sujet, j'ai choisi de suivre les traces d'une famille de Français qu'on connaît très mal et dont on n'entend jamais parler. À tort.
Alors nous allons voir aujourd'hui si les glaces de la Neva inspirent autant nos auditeurs que les jardins ensoleillés de Granade, c'était hier. Et pour nous joindre, Franck, il suffit de se rendre sur le site internet d'Europe 1.
Vous savez qu'à cette saison, il peut faire assez chaud dans la ville de Pierre. Aujourd'hui, il fait 20 degrés à Saint-Pétersbourg et on attend pour demain 27 ou 28 degrés.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Un rêve, une fantaisie, une lubie de souverain, c'est ainsi qu'au tout début du XVIIIe siècle, au sein du peuple comme à la cour, les Russes considèrent la volonté du tsar Pierre de bâtir une grande ville très au nord, dans les marais de l'Ingrie, avec leurs bois déserts et leurs landes désolées. Le tsar se garde de se justifier. Vous savez, ce n'est pas dans les habitudes de Pierre le Grand d'apporter des justifications. Il reste assez secret sur les intentions qui l'animent. Il ne donne aucune explication, mais il faut savoir que dans un coin de sa mémoire continue de briller le souvenir de son séjour de jeunesse à Amsterdam. Il rêve de sa nouvelle Amsterdam. Là, dans ce paysage mélancolique des bords de la Neva, un fleuve puissant comme la mer, et du reste si près de la mer, et qui se déploie en un delta prometteur, là, il voit bien, là, Pierre imagine déjà sa nouvelle cité. Il faut vous dire que le tsar n'aime pas Moscou. Il en redoute les traditions, un peu passéistes, certains diraient obscurantistes. Nous allons y venir tout à l'heure. Pierre déteste notamment tous ces bâtiments vétustes, plus ou moins pourris pour certains, suintants même, si l'on en croit les voyageurs de l'époque, où toute la vie s'organise, vous savez, autour du fameux coin rouge, le foyer religieux rempli d'icônes dans chacune des maisons russes, dont les pièces sont toutes petites, il faut vous dire qu'il fait souvent si froid à Moscou. Un voyageur occidental affirme que lors des incendies qui sont monnaie courante, qui sont presque quotidiens dans la capitale russe, des bandes de rats et de souris descendent sans hâte les escaliers de la maison qui flambe pour passer tranquillement dans les maisons voisines, nous dit-il. Pierre le Grand veut en finir avec cette espèce d'incurie. Lui se veut urbaniste, paysagiste, architecte. Il se veut un entrepreneur sur une échelle immense. Il faut vous dire qu'il a visité l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, l'Autriche, qu'il a retenu la leçon des fondateurs de ces cités nouvelles dont les monarchies d'Occident à l'époque couvrent leurs états. Lui aussi veut ses trouées, ses perspectives, ses places, ses parcs, ses terrasses, ses châteaux aux façades rectilignes et grandioses, aux enfilades lumineuses. Les architectes de Pierre le Grand, ceux qu'il va faire venir à grands frais, qu'il ne paiera pas toujours très bien d'ailleurs, ça aussi nous y reviendrons. Ces ingénieurs, tout ce monde-là est européen, ils devront compter avec les inondations monstres et tellement inattendues, avec les épidémies sur les chantiers, les famines, les pillages incontrôlables aussi dans les quartiers nouvellement sortis de terre. Mais ils triompheront des calamités et des perfidies parce qu'ils sont appuyés, parce qu'ils se savent soutenus et en quelque sorte galvanisé par l'inflexible volonté du tsar. Que les navigateurs, que les marchands s'avisent de bouder Saint-Pétersbourg, eh bien Pierre les obligera, par oukase, à venir s'installer là sur la Neva, dans son rêve concrétisé, mais aussi déformé sans doute par la réalité. Pierre le Grand se dit, je l'appelle Pierre le Grand, il ne l'est pas encore tout à fait, Pierre devrais-je dire, c'est que à travers toute l'Europe se murmure pas mal de vilenies. On dit que 100 000 hommes au bas mot auraient péri pour réaliser son rêve. Et quand on dit 100 000 hommes, c'est un conte d'avant 1713. Pourquoi, se demandait naguère Michel de Saint-Pierre, pourquoi avoir ouvert ce chantier prodigieux? Pourquoi vouloir imposer à tout un peuple cette ville, ce port dont il ne veut pas? Pourquoi? Le tsar, répond l'auteur du drame des Romanov, est peut-être le seul à connaître la véritable réponse qu'il ne daigne pas donner, puisqu'il est aussi le seul à tirer son pays vers le haut. En bâtissant Saint-Pétersbourg, il veut d'abord et avant tout ouvrir une fenêtre sur la mer, idée fixe dont il reste obsédé. Il entend accélérer les transports d'armes, de munitions et de marchandises en provenance de l'Occident, posséder un port fortifié où puisse en toute sécurité s'abriter la flotte future qu'il entend opposer. Opposer à quoi? Bien à l'autre grande puissance du Nord, évidemment, à cette Suède, dont la menace permanente en ce tout début du XVIIIe siècle pour la Russie, cette Suède dont la menace l'empêche de dormir.
De Dieu garde le tsar, chant des soldats des tsars, Franck.
Alors c'est en juin 1709 que Charles XII de Suède se met à attaquer près de Poltava les quelques 100 000 hommes de Pierre Ier qui ont été puissamment retranchés, défendus. Or, le roi de Suède va se casser les dents sur cette affaire. Ça, c'est assez incroyable. Pierre, qui là devient Pierre le Grand, enfin débarrassé du cauchemar suédois, va pouvoir savourer sa victoire. Un maréchal et 10 généraux prisonniers. Il aurait bien aimé également capturer le roi Charles XII, mais il est parti à temps. Ainsi que des centaines d'officiers, plus de 20 000 hommes prisonniers. C'est une très grande victoire et qui décide du sort non seulement de la Russie, mais de tout le nord de l'Europe, et j'allais dire, en faisant un tout petit peu de politique fiction, du sort du monde lui-même. Qu'aurait été l'Europe et que serait devenu le monde si la Suède avait été la superpuissance nordique? Mais ça nous entraînerait un peu loin de nous poser cette question aujourd'hui. Au cours de cette guerre contre la Suède, le tsar a fait la rencontre d'une servante extrêmement modeste, Hélène Catherine, c'est une Livonienne. Bientôt, cet éternel inquiet qu'est Pierre, victime de terribles crise d'épilepsie. Bientôt, cet homme constamment malade va trouver refuge dans le giron de cette femme qu'il surnomme la mère, la petite mère, cette fille de ferme qui a été violée par la soldatesque, qui a été mariée à un dragon suédois pour éviter un bordel militaire, qui est devenue cantinière aux armées, finalement prostituée, sauvée par un pasteur, capturée par les Russes, offerte par un officier. C'est un véritable roman que l'histoire de Catherine. Offerte au vieux maréchal Cheremetiev qui va la confier à Menchikov et Menchikov lui-même à Pierre. Bref, cette femme sera un jour couronnée par le tsar lui-même, impératrice de toutes les Russies. Voilà un destin qui ferait un film tout simplement assez étonnant. Je donne comme ça des idées quotidiennes. Je ne sais pas si quelqu'un les note et,
si quelqu'un
et décide
pouvait écouter,
d'en
ce serait
profiter.
Sympa, oui.
La nouvelle épouse de Pierre, car il l'épouse en 1711, contraste, il faut le dire, singulièrement avec la précédente, la douce Doxy, fille de Boyard, qu'il avait répudiée en 1698. Parmi les enfants que Doxy lui a donnés, outre le tsarévitch Alexis, vous savez, ce personnage un peu falot, même assez minable, qui complotera et que Pierre aura la cruauté de faire fouetter jusqu'à ce que mort s'en suive. Parmi les autres enfants figure une princesse Élisabeth qui est née en 1709 justement et dont le tsar se dit qu'elle pourrait faire une épouse rêvée pour l'enfant roi de France né lui-même en 1710 et qui règne depuis 1715 sous le nom de Louis XV. Se rapprocher de la France qui à l'époque est la première puissance d'Europe et à cette occasion effectuer un grand voyage en France, tel est le nouveau projet qui enthousiasme le tsar Pierre.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous vivons à l'heure de la Russie aujourd'hui sur Europe 1, puisque nous mettons à l'honneur Pierre le Grand.
Et nous rentrons à Paris, si vous voulez, Julia, puisque l'arrivée à Paris du tsar de Russie, escorté de 300 grenadiers à cheval, cette arrivée qui a lieu en mai 1717, c'est-à-dire au tout début de cette régence qui marque, vous savez, un soulagement énorme après la mort de Louis XIV et qui se traduit par une sorte d'explosion de fête et de réjouissance. Bref, cette entrée impériale à Paris ne passe pas inaperçue. On l'avait programmée pourtant assez tard dans la soirée, après 9h du soir, par souci de relative discrétion. Seulement, les Parisiens sont toujours informés de tout. Vous savez, ça n'a pas changé. Ils se sont massés sur le parcours du souverain russe. Ils ont illuminé de leur propre chef les rues Saint-Denis et Saint-Honoré et poussent des hurrahs et des cris de joie auxquels le géant, dit immense, hein, Pierre le Grand, répond depuis la portière de sa voiture. Oh, c'est un homme qui est assez d'un naturel bon enfant. Pierre est à la fois joyeux et tyrannique. Il est effrayant, mais il reste bonhomme. Il manifeste surtout, et c'est peut-être le trait majeur de sa personnalité, une curiosité boulimique à l'égard de toutes les nouveautés, de tous les raffinement dont une capitale comme Paris ne peut que regorger. On le voit faire arrêter son carrosse pour questionner des cochers, ou bien, il fallait s'y attendre, on le voit courser des dames et des demoiselles en promenade dans les jardins de Versailles. Versailles où la cour à l'époque ne réside plus. Le maréchal de Tessé, qui est chargé de guider le tsar et qui comprend très vite que sa mission consiste surtout à essayer d'encadrer les folies de son royal ou impérial visiteur, le maréchal de Tessé fait au régent Philippe des rapports alarmés. Au palais royal, on a le bon goût d'en rire. Et puis, un jour, naturellement, le tsar Pierre rend visite au petit roi Louis XV. Alors, c'est le roi qui, en fait, arrive. Pierre est arrivé un tout petit peu avant. Il aide sa majesté, le roi de France, à descendre de son carrosse. Et tous deux se rendent dans la chambre du jeune monarque où deux fauteuils égaux, ce qui est rarissime évidemment, ont été placés côte à côte. L'enfant récite un compliment à son visiteur et Pierre lui répond ceci. Je cite... « Mon frère, il y a longtemps que je souhaitais voir le roi de France. J'ai aujourd'hui la satisfaction de voir votre majesté qui promet tout ce que ses ancêtres ont fait de grand. Je sais plusieurs langues. Je voudrais les avoir oubliées et ne plus connaître que la française afin d'entretenir votre majesté. » Et puis tout à coup, parce que c'est bien gentil, mais les gestes c'est encore mieux, à la stupéfaction des rares privilégiés qui assistent à cet entretien, le tsar se lève et soulevant le petit Louis XV par les aisselles, l'embrasse chaudement à la russe. L'enfant ne peut s'empêcher de rire. « Sire, lance le tsar, ce n'est pas le baiser de Judas. » On en est convaincu. Pour autant, Pierre le Grand n'obtiendra pas de marier sa fille au roi de France. Son voyage à Paris n'aura pas été inutile, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'entre quelques beuveries et mascarades, il aura tout de même pris le temps de visiter les arsenaux, les fonderies, les collections zoologiques, les musées techniques, la manufacture des gobelins et quelques autres. Visite toujours très attentive, pas protocolaire du tout, et visite au cours desquelles le tsar, qui est toujours armé d'un carnet et d'un crayon, note inlassablement tout ce qu'il peut voir d'intéressant. À l'Académie des sciences, il admire la machine à élever, un peu l'ancêtre de l'élévateur, si vous voulez, inventé par Laffray, ainsi que le cric de Daline. Il passe un temps très long dans le cabinet de physique du directeur des postes. Il ne cesse de rencontrer des mathématiciens, des savants, des géographes. À la Sorbonne, on le voit s'arrêter devant le buste du cardinal de Richelieu et l'embrasser. « Ah, je donnerai la moitié de mon empire, lance-t-il, pour qu'il m'apprît à gouverner l'autre. » Attention, c'est Duclos qui affirme cela. Ni d'Angeau, ni Saint-Simon ne l'ont noté, ce qui est quand même un petit peu étonnant. à Marly, tandis qu'il rit encore d'avoir aspergé les seigneurs de sa suite en ouvrant tout grand les vannes d'une fontaine, on lui indique l'appartement de Louis XIV. Il faut savoir que Pierre le Grand voue un véritable culte à la mémoire de Louis XIV. Et puis on lui montre juste à côté celui de Madame de Maintenon. Quand je dis juste à côté, si ma mémoire est bonne, juste au-dessus, celui de Madame de Maintenon. Or, à cette époque, en 1717, Madame de Maintenon est toujours en vie. Et le tsar manifeste le désir de la rencontrer. Alors on se rend aussi sec à la maison d'éducation de Saint-Cyr, où le tsar arrive sur les coups de 7h du soir. Madame de Maintenon a été avertie à la dernière minute, elle est affolée. Alors elle a jugé diplomatique de se tenir au lit, de se faire porter pâle. Elle fait même tirer les rideaux de son lit. Qu'à cela ne tienne, malade ou non, le tsar veut absolument la voir. Voilà ce que Madame de Maintenon nous raconte. Elle a écrit elle-même à Madame de Caylus, à sa nièce. Elle raconte cette visite, elle dit... Le tsar est arrivé à 7h du soir, il s'est assis au pied de mon lit, il m'a demandé si j'étais malade. J'ai répondu que oui, il m'a fait demander ce que c'était que mon mal. J'ai répondu « Une grande vieillesse, sire ». Il ne savait que me dire et son truchement ne paraissait pas m'entendre. Son truchement, c'est-à-dire son interprète. Sa visite a été fort courte, il est encore dans la maison, je ne sais où. Il a fait ouvrir le pied de mon lit pour me voir. Vous croyez bien s'il n'en aura guère été satisfait. Madame de Maintenon est toute retournée, mais le tsar Pierre, lui, est déjà loin. Bientôt, il va reprendre les chemins septentrionaux de cette Russie, où tout, à ses yeux en tout cas, tout reste à faire.
Der Sonne vertreiben die Nacht de Mozart, c'est un extrait de la flûte.
Lion du soleil déchire la nuit. Nous sommes donc, je vous l'ai dit, je vous l'avais promis, nous sommes en compagnie d'Hélène Carrère-Dancos, qui connaît la Russie évidemment comme personne, et notamment le règne de Pierre le Grand. Hélène Carrère-Dancos, vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là et de nous donner quelques aperçus de cette personnalité dont je disais qu'elle était boulimique de curiosité. C'est un homme avant tout curieux, Pierre le Grand.
Oui, et si vous permettez, je voudrais juste ajouter une petite note qui concerne l'Académie française, oui. Puisque vous l'avez évoqué, c'est que quand Pierre le Grand est venu à Paris, c'est son second voyage, le régent a jugé bon de le loger au Louvre, dans les appartements de l'Académie française. On a délogé l'Académie française, qui s'est délogée.
Qui donc à l'époque siégeait, oui, dans le Louvre.
Qui siégeait, qui avait des appartements dans le Louvre, et c'est pour donner une caractéristique de Pierre le Grand, il a regardé ça, il a trouvé que c'était... très, très officiel, et aussitôt il est parti, plantant là tout le monde, s'installer dans une auberge pour pouvoir se livrer à une vie beaucoup plus libre.
Il a vraiment sidéré les Parisiens pendant ce séjour de 1717, et les personnalités officielles que le régent avait mis à sa disposition pour le conduire, je parlais du maréchal de Tessé, il y en avait quelques autres, étaient affolés littéralement, on n'arrivait pas à le suivre.
Oui, mais alors je voudrais ajouter quelque chose, parce que ça mérite d'être évoqué. Il était venu une première fois... anonymement, sous les traits d'un personnage avec un pseudonyme. Il n'était pas encore monté sur le trône. C'était sa sœur qui était régente. Et c'est véritablement à la veille de sa montée sur le trône. Toutes les cours d'Europe l'avaient accueilli très chaleureusement. On avait très bien compris que derrière le pseudonyme, il y avait le futur souverain de ce grand empire. Mais la cour de France, elle,
Louis XIV,
France,
à l'époque.
Louis XIV, qui méprisait la Russie, qui considérait que c'était un pays de sauvages, ne l'avait pas accueilli. Et je crois qu'il faut toujours le dire parce que ça explique la visite qu'il fait. D'une certaine façon, la seconde visite est une revanche. Et même l'idée de marier sa fille au roi de France appartient, je dirais, à ce souvenir extrêmement amer qu'il a de n'avoir pas été reconnu pour ce qu'il était. à la fin du XVIIe siècle.
Vous n'avez pas voulu me recevoir à temps, et bien
oui,
maintenant...
Et maintenant, vous verrez, et d'une certaine façon, ces mauvaises manières qui se sont bien plus déployées en France qu'ailleurs, bon, il était très, très rugueux, très laissé aller d'une certaine façon, mais c'était un homme qui savait se contrôler, qui était remarquablement intelligent, et il s'est livré. Saint-Simon, qui fait une relation extrêmement précise de son voyage et très amusante, je crois l'a très bien soupçonné. Il y a véritablement pour tout l'idée que cette France, il faut bien qu'elle sache ce que c'est que le grand empereur de Russie.
Il est là aussi, bien sûr que l'un de ses buts, en dehors de cette affaire de mariage, l'un de ses buts est de se renseigner, de rencontrer un certain nombre de savants, de personnalités, etc. Mais il est là aussi pour faire la publicité, en quelque sorte, de son empire. Nous revenons sur ce voyage et sur ses conséquences dans un instant.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Et c'est un personnage curieux, toujours à l'affût des nouveautés, qui est à la une aujourd'hui sur Europe 1, Pierre le Grand.
Pierre le Grand, dont nous parle Hélène Carrère-Dancausse. Hélène Carrère-Dancausse, vous avez été notamment sa biographe, vous connaissez bien ce personnage. Est-ce qu'on peut dire que dans ce voyage célèbre de 1717, vous nous dites qu'il y avait une volonté diplomatique d'en imposer en quelque sorte à la France. Est-ce qu'à travers la France, c'est l'ensemble de l'Europe que le tsar voulait impressionner ? Il voulait qu'on reconnaisse la Russie comme une grande puissance.
Oui, je crois qu'il faut toujours se souvenir que tous les voyageurs qui étaient allés en Russie jusqu'à cette époque-là la décrivaient comme un pays sauvage, barbare. Ce qui correspondait à ce que pensait Pierre le Grand, d'une certaine façon, la vocation qu'il avait, c'était de faire sortir son pays de la barbarie et d'en faire un grand pays européen. Mais il était le souverain de ce pays, il n'acceptait pas le regard un peu méprisant que l'on jetait sur son pays. Et il faut se souvenir qu'à cette époque-là, au début du XVIIIe siècle, le pays qui donne le ton à l'Europe, le pays le plus important, c'est la France, incontestablement. Par conséquent, c'est à travers une reconnaissance en France que Pierre le Grand, il avait la plus grande référence pour la France, c'était tout de même le pays où avait régné le roi Soleil.
Oui, je disais tout à l'heure qu'il vouait un culte à Louis XIV. Effectivement, sa déception avait été grande lors de ce premier voyage, il n'avait pas été reçu. Oui. Mais en même temps, c'était son modèle.
Exactement. Je dirais que les palais qui s'est fait construire, c'était à l'image de Louis XIV. Louis XIV était véritablement, avait rayonné sur toute l'Europe et le régent et ensuite Louis XV hériteront du prestige la France. Donc c'est un voyage éminemment politique et destiné à deux choses. D'une part, à montrer que la Russie est un grand pays et à marquer, si vous voulez, aux yeux du monde qu'elle est respectée. Et en même temps, c'est un voyage aussi parce que Pierre le Grand était un homme d'une remarquable intelligence qui savait que ce qu'il n'avait pas dans son pays, où il y avait au fond le problème de Pierre le Grand, ça a été de rattraper le retard russe. Retard, juste une parenthèse, causé par 3 siècles d'occupation mongole et qui avait coupé la Russie du développement européen. Ça a été l'obsession. Tout le règne de Pierre le Grand, tout son mot d'ordre, c'est le rattrapage. Et où est-ce qu'il peut rattraper ? C'est en allant chercher dans les modèles. Et la France est le pays qui rayonne. La France du XVIIIe siècle, c'est véritablement l'astre de toute l'Europe. C'est la raison pour laquelle, à tous les points de vue scientifiques...
Il va puiser à la source, en fait.
Absolument. Et c'est là qu'il va chercher pour rapporter dans son pays, européanisé, en empruntant à la fois les modèles scientifiques, les modèles artistiques, les modèles culturels. Tout ce qu'il peut importer, il l'importe de l'Europe. Mais la France, je dirais, il a importé les techniques maritimes de Hollande. Il a importé beaucoup de techniques scientifiques des diverses principautés allemandes. Mais le modèle culturel, il est français avant tout. C'est le modèle culturel, le modèle historique, les bonnes manières. Tout cela est français.
Et on va essayer d'ailleurs, alors c'est un tout petit peu plus tard, ça c'est sous Élisabeth, mais on va essayer de greffer sur les habitudes de la cour de Russie des mœurs, enfin une étiquette qui ressemblera beaucoup à l'étiquette française. Je m'empresse de dire qu'on n'y arrivera jamais du reste, parce que la noblesse russe se montre extrêmement, extrêmement rétive à cette...
Ça n'est pas seulement Élisabeth, c'est sa fille, mais Catherine II,
Ensuite Catherine, bien sûr,
il a été le modèle, car il faut se souvenir, Pierre le Grand aura été le modèle de tous ceux qui ont dirigé la Russie, moins sa propre fille, que la petite Allemande qui deviendra Catherine II, qui a en tout la copiée et qui s'est vue son héritière, et elle avait tout à fait raison, que je dirais jusqu'à aujourd'hui Vladimir Poutine. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont dirigé la Russie, Pierre le Grand a été le modèle parce que c'est celui de la lutte contre le retard. Et alors, évidemment, en France, il n'a pas importé la langue, lui, encore. Mais Élisabeth va importer la langue française. Et Catherine II, encore plus, elle va importer les philosophes. Elle va faire venir, pour éduquer ses petits-fils, des philosophes français. Donc, il y a une volonté, et ça, c'est Pierre le Grand.
Bien sûr.
Prendre, dans le pays qui rayonne le plus en Europe, tout ce que l'on peut prendre pour faire de la Russie un grand pays européen.
Alors, qui avait-il à rattraper? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. On essaiera de brosser un tableau, pas trop noir quand même, de la Russie de Pierre au moment où il l'a prise, si je puis dire, qui était quand même assez arriérée, il faut bien le dire, avec beaucoup de handicap. Et puis aussi, nous suivrons les pas d'une famille de savants français, de géographes, les Delisle, qui sont allés très loin en Russie, jusqu'en Sibérie. Ça fait partie de ces gens qui établissaient le lien entre les deux pays.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invitée sur Europe 1, Hélène Carrère-Dancos, qui est historienne de la Russie et membre de l'Académie française.
Mieux que membre, même secrétaire perpétuelle de l'Académie 2000. Française depuis 2000. Merci beaucoup, Hélène Carrère-Dancos, d'être des nôtres. Votre dernier ouvrage s'intitule « La Russie entre deux mondes ». C'est vraiment toute la problématique du règne de Pierre le Grand, ça.
Oui, si ce n'est que c'est presque la problématique à l'envers. Parce que quand Pierre le Grand est monté sur le trône, il a trouvé un pays qui était encore un pays d'une certaine façon asiatique. Et son idée, la fenêtre ouverte sur l'Occident, c'est-à-dire véritablement s'arracher à la pesanteur de ce qu'il appelait la barbarie asiatique, c'était son mot, qui a d'ailleurs été repris par Lénine, s'arracher à la pesanteur de la barbarie asiatique et devenir un grand pays européen, ça a été son entreprise. Aujourd'hui, la Russie, qui est un grand pays européen, s'appuie aussi sur ça. Je dirais que c'est un pays d'Eurasie et elle se définit comme pays eurasiatique. Ce qui est une nouveauté, je ne suis pas sûr que Pierre le Grand, dans sa tombe, ne se retournerait pas.
Et en même temps, avec ce très grand réalisme, ce pragmatisme qui était le sien, voyant évidemment le centre de gravité de la planète se déporter vers l'Asie, il aurait sans doute été très intéressé par ce qui se passe là-bas.
Alors qu'à l'époque de Pierre le Grand, le monde, c'était l'Europe. Il suffit de regarder les planisphères, les cartes, pour savoir que on imaginait que l'Europe.
Alors, puisque nous faisons parler Pierre le Grand sur l'an 2011, une question uchronique, nous dit Patrick, par Internet. Et si, alors attendez, tenez-vous bien, et si Napoléon avait eu affaire à Pierre le Grand plutôt qu'à Alexandre Ier, l'histoire n'en aurait-elle pas été changée? La seule chose que je puis dire, c'est si, certainement, dans quelle mesure, c'est une autre affaire. Nous avons au téléphone Marianne Chabin, qui est archiviste paléographe et qui a travaillé sur une famille de savants français qui s'appelle les Delisle. Nous avons vu à quel point Pierre le Grand était très curieux d'innovation, de science, de technique, mais aussi de cartographie. Et pendant son voyage de 1717, il a rencontré un certain nombre de savants. Eh bien, figurez-vous qu'une famille de savants français a fait mieux que s'intéresser à la Russie. Elle est allée là-bas, elle y a travaillé. Et Marianne Chabin, à l'époque c'était pour une thèse à l'École nationale des chartes, a suivi leur parcours et est allée dans les archives retrouver la trace de cette famille un peu oubliée. Oublié aujourd'hui. Bonjour Marianne Chabin.
Bonjour Franck Ferrand.
Merci.
Bonjour à tous.
Merci d'avoir un peu exhumé en quelque sorte ces parcours sidérants. Ils sont allés très loin quand même, vos Delisle.
Alors ils sont partis de Paris à l'invitation de Pierre le Grand et de ses successeurs et ils sont allés effectivement jusqu'à la côte pacifique. Alors là c'est en raccourci et ça a été une épopée, je dirais, d'une bonne vingtaine d'années. On évoquait là à l'instant le désir, Madame Carrère-Dancos évoquait la volonté hein, de Pierre le Grand de prendre à la France tout ce qu'elle avait de scientifique, tous les modèles qu'elle pouvait présenter pour exploiter ça pour son propre pays. Et je pense que cette histoire des Delisle en est un vrai exemple puisqu'il s'est attaché deux astronomes qui ont permis de rénover complètement la connaissance géographique de la Russie.
Alors, il faut parler d'abord de qui? De Guillaume Delisle? C'est lui le personnage qui décide du devenir familial?
Oui, si on veut, on peut dire ça. C'est Guillaume de Lille est l'aîné. C'est Pierre le Grand va le rencontrer en 1717 en faisant le tour de l'académie. À l'époque, Guillaume de Lille vient d'être nommé premier géographe du roi. Donc c'est lui qui enseigne la géographie au petit Louis XV, au petit Louis XV, oui. Et Pierre le Grand est absolument séduit par la carte de Moscovie. Il faut dire qu'à l'époque, on ne disait pas la Russie, on disait la Moscovie. Ça évoluera vers le milieu du XVIIIe siècle, cette appellation de Russie à la place de Moscovie. Donc, il voit cette carte de Guillaume de Lille, qui est absolument remarquable à ses yeux, qui est meilleure que celle qu'il peut avoir chez lui.
Beaucoup plus précise que ce dont il dispose lui-même, en fait, dites-vous. Voilà.
Et il va s'en suivre un certain nombre d'échanges de cartes, puisque de retour dans son pays, Pierre le Grand va envoyer à Guillaume de Lille de certaines cartes. Guillaume de Lille va lui en soumettre de nouvelles. Et puis ça va se terminer par le fait que Guillaume de Lille, qui était un bon vivant, lui aussi va mourir très jeune. Et c'est son frère, enfin ses deux frères, Joseph-Nicolas de Lille.
Et Louis. Oui.
Et Louis, qui vont prendre la relève et qui vont partir tous les deux à Saint-Pétersbourg, dans un premier temps, donc en 1726, 25, 26.
Ils arrivent juste après la mort de Pierre le Grand, en fait.
Ils arrivent après la mort de Pierre le Grand, les intermédiaires, si je puis dire, sont les mêmes. Il y a une continuité, vive le roi est mort, vive le roi, enfin le tsar est mort, vive le tsar. Il y a une continuité dans la volonté du gouvernement, des dirigeants de la Russie de poursuivre l'effort scientifique de Pierre. Et dans ce contexte-là, Joseph-Nicolas de Lille, qui est le personnage qui devient le personnage principal à la mort de son frère, va construire l'observatoire de Saint-Pétersbourg et va rencontrer Bering, qui revient de sa première exposition, et va préparer avec d'autres académiciens qui sont à ce moment-là installés à Saint-Pétersbourg, la deuxième expédition.
Alors, à notre époque où les voyages sont devenus très, très faciles et où le monde est un village, évidemment, on se dit, ils s'installent à Saint-Pétersbourg. Enfin, tout ça paraît assez facile. À l'époque, c'est une aventure, mais littéralement hallucinante. C'est une aventure incroyable qu'ils vivent.
Alors, pour avoir fréquenté ces personnages, si je puis dire, au travers des archives, et il se trouve que Joseph-Nicolas de Lille en a laissé des cartes.
Oui, bien sûr, oui.
On peut voir qu'il y a à la fois ce désir de la science, on est dans l'Europe des Lumières, dans l'Europe même avant la République des Lettres. On est entre la République des Lettres et l'Europe des Lumières, et il y a ce désir de science, de connaître on n'a aucune idée de ce qu'est le territoire russe après l'Oural, à droite de l'Oural. On n'en a aucune idée.
Or, ils vont y aller, eux, c'est ça qui est incroyable, ils se rendent personnellement sur les lieux.
Alors, le plus jeune, est un des membres de l'expédition. Il fait déjà plusieurs expéditions dans le Nord, en Laponie, et puis il va faire partie de l'expédition Bering, pour l'expédition Bering qui va aboutir à la cartographie de l'Empire russe, il y a l'expédition maritime et il y a l'expédition par les terres. Et Louis de Lille, il part là-bas avec d'autres savants, donc un botaniste, un zoologue. Il y a vraiment toute une équipe qui part et il va même s'arrêter à Irkoutsk où il va se marier. Mmh. Puis il va reprendre l'expédition, donc ça dure plusieurs années effectivement, mais ils ont une telle soif, si vous voulez, de connaissances, de collecte d'informations, ils sont en terrain complètement vierge, qu'il y a beaucoup d'inconvénients aussi, d'obstacles matériels.
Vous montrez qu'au-delà de l'intérêt géographique, ils manifestent un intérêt qui est quasiment anthropologique aussi, ils s'intéressent aux peuples qu'ils croisent, notamment dans la lointaine Sibérie.
Voilà, on n'a pas des récits sur tout, mais on a un document absolument très intéressant de Joseph-Nicolas de Lille sur un peuple nomade du nord près de l'océan glacial qui s'appelle les Samoyèdes et qui va étudier effectivement comme un vrai ethnologue.
Oui, c'est assez extraordinaire. Donc, on peut dire que
il étudie leur langue, il dessine leurs vêtements, il étudie comment leurs pratiques de pêche et de chasse. C'est absolument des savants, un astronome, mais ce sont des
savants complets et aventuriers. C'est magnifique. Merci beaucoup, Marianne Chabin. Vous êtes archiviste. D'ailleurs, vous participez, vous êtes dans un cabinet de conseil qui s'appelle Archive 17. Et vous avez exhumé littéralement l'aventure de cette famille de Lille, un peu oubliée aujourd'hui, et qui représente cette coopération scientifique entre la France et la Russie au début du XVIIIe siècle. Merci de l'avoir fait. Je disais tout à l'heure que le parcours de Catherine, la seconde épouse de Pierre, pouvait justifier un film. Vous voyez un peu ce qu'on pourrait faire avec la famille de Lille.
au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Un extrait sur Europe 1 du concerto pour violon numéro 1 de Tchaïkovski, Franck.
On aime tellement Tchaïkovski dans cette émission que même quand on parle du 17 ou du 18e
on
siècle,
on lui rend quand même hommage.
Après tout, c'est l'âme russe et elle est éternelle. Vous étiez en train de me dire, Hélène Carrère-Dancos, que vous avez suivi, vous aussi, suivi par archives interposées, je précise, un des membres de l'Académie des sciences du temps de Louis XV. Il s'appelait l'abbé Chabdeau-Troche.
Voilà, l'abbé Chabdeau-Troche était un astronome. Et Louis XV, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, parce que vous avez évoqué tout à l'heure avec Madame Chabin la difficulté des voyages. Il a fait la même chose. L'abbé est parti pratiquement seul, sans tout un arsenal. Envoyé par Louis XV en Russie, théoriquement pour observer une éclipse du soleil sur Vénus.
Il faut toujours
en fait, je dirais qu'il a été envoyé presque en mission d'espionnage, les deux. C'est-à-dire pour une mission scientifique, mais en Sibérie, hein, pas n'importe où. Et en même temps, Louis XV souhaitait...
renseigner le secret du
l'Empire
roi,
russe montait, et Louis XV souhaitait avoir un rapport assez sévère sur l'état du pays. C'est ça qui est important. Et l'abbé Chabdeau-Troche, sa voiture a versé, il a été au fond des villages, il a vu toutes les horreurs du servage, tout ça est passionnant.
Et quelles horreurs, hein, quel tableau incroyable.
Ah, il dresse un tableau extraordinaire, justement, parce que je crois... puisqu'on parle de Pierre le Grand et de sa volonté modernisatrice, il est à la tête d'une société où le servage s'est installé tardivement. C'est une des choses qu'il faut comprendre. Le servage quitte l'Europe occidentale pratiquement, je dirais, quand la féodalité disparaît. C'est la centralisation de l'État entraîne la disparition du servage.
Tandis alors qu'en Russie,
c'est exactement le contraire. Le développement de l'État, la centralisation, fait que le souverain distribue des terres à ceux qui le servent. Il y a un service. Les hommes sont obligés de servir. Ils ont l'obligation de service. Et le servage, c'est un peu la compensation. Ils sont payés avec des terres et des serfs. Bon, c'est un système qui est comme l'esclavage aux États-Unis, d'une certaine façon. C'est un système qui est extrêmement dur, qui s'accompagne. C'est ce qui est terrible. D'abord, les conditions matérielles d'existence sont très difficiles. Les récits de l'abbé Chabdeau-Troche le montrent. Qui s'accompagne de violences physiques. Là, au fond, ça faisait partie de la civilisation.
Les châtiments corporels,
le knout, les divers. On suspendait les gens. Enfin, dans les livres de l'abbé, il a fait 6 volumes. Et il y a des dessins absolument saisissants de tous les ennuis physiques qui attendaient les serfs, que l'on retrouve d'ailleurs très tard, puisque l'abolition du servage, c'est 1861. Mais la comtesse de Ségur, qui a écrit, qui était...
Sophie Rostopchine.
Rostopchine racontait dans le général Dourakine comment le général Dourakine martyrisait ses serfs et comment on knoutait tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant parce que au moins la tradition intellectuelle s'en est maintenue. Et Pierre Legrand là-dessus... Pierre le Grand a voulu moderniser, je dirais, l'extérieur d'abord. C'est-à-dire qu'il n'a pas supporté les barbes, les tenues, ce qu'on appelle les caftans, dans lesquels les seigneurs...
Il a fait raccourcir les manteaux, il a fait couper les barbes.
Il se promenait avec une paire de ciseaux. et chaque fois qu'il voyait un seigneur avec la barbe ou le caftan, il coupait. De la même façon que son fils Alexis, il l'a véritablement martyrisé parce qu'il incarnait à ses yeux l'attachement à l'ancienne Russie. C'est ça qui est très intéressant. Il a fait mourir ce garçon. Et en
et
observant d'ailleurs les conditions...
En le fouettant, enfin, à la
torture.
Oui,
et dans les horrible. Conditions dans lesquelles il a apparemment assisté à cela. C'est pour dire qu'il y avait cette dualité chez Pierre le Grand. C'était un homme moderne, passionnément attaché aux sciences, passionnément attaché au savoir. Pour lui, entre autres, la modernité, on a évoqué les Français, mais dans sa capitale, il y avait un faubourg des Allemands. Les Allemands étaient très nombreux. Il les a fait venir parce qu'ils considéraient... ils étaient
en matière
souvent,
de technique, ils étaient
incomparables. Oui, et pour les techniques et aussi comme pédagogues. Ça comptait énormément pour lui. Et en même temps, je dirais que ce qui se passait dans les tréfonds du pays, il considérait que c'était au fond les conditions avec lesquelles on pouvait développer économiquement le pays, assurer d'abord les conditions matérielles du rattrapage qu'il souhaitait réaliser.
Vous avez dit un mot de l'abolition du servage, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'était le grand œuvre d'Alexandre II, Alexandre II auquel vous avez consacré une biographie, Alexandre II, le printemps de la Russie. C'est comme vos autres ouvrages publiés chez Fayard.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et notre émission est consacrée aujourd'hui sur Europe 1 à Pierre le Grand, à son héritage, aux mœurs de la Russie de son temps. Si vous avez des questions, www.europe1.fr, Franck.
Oui, il faut aller assez vite parce que nous acheminons tranquillement
minutes.
Vers la fin de cette émission. J'aimerais qu'on parle de la fin de ce règne. Donc en 1717, Pierre le Grand rentre en Russie. Il y a la mort de son fils dans les mois qui suivent. Des troubles quand même. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, son règne n'aura pas été
Son règne n'aura pas du tout été serein. Cela dit, toute cette fin de règne, il aura construit véritablement, l'administration de son empire, le pouvoir de l'État sur l'Église, ce qui est extrêmement important, car avant Pierre le Grand, l'Église tenait un rôle considérable depuis les débuts de la dynastie des Romanov, et il aura véritablement assuré
la primauté du politique, en quelque sorte.
Absolument, ouais. En supprimant d'ailleurs le patriarcat et en créant le Saint-Synode. Je crois que c'est un point très important parce que c'est une manière de concevoir l'État d'une façon moderne, beaucoup
plus
moderne
que la plupart. Il y a juste un mot de plus de ça, donc cette création du Saint-Synode.
Bon, alors c'est-à-dire qu'il y avait depuis le premier Romanov.
Michel Romanov,
qui était monté sur le trône en 1613, était le fils d'un ecclésiastique qui est devenu patriarche. Et on peut dire que dans tout le début de la dynastie, il y avait une double direction et tous les actes de l'État étaient signés du souverain et du patriarche. Et jusqu'à Pierre le Grand, l'Église a joué un rôle considérable. Alors Pierre le Grand qui s'en méfiait, parce que c'était aussi pour lui à la fois un symbole, parce que ce n'est pas n'importe quelle église, c'est l'église d'Orient. C'est la chrétienté empruntée à Byzance. Et Pierre le Grand, dans cette chrétienté empruntée à Byzance, les orthodoxes étaient favorisés et il y avait une méfiance à l'égard des autres religions. Alors Pierre le Grand a favorisé, et d'ailleurs ce n'est pas par hasard qu'il a fait venir des Allemands, favorisé des réformés, il a favorisé des catholiques, il a voulu par tous les moyens essayer de diminuer cette influence de l'Église d'État.
Son rapprochement de l'Occident allait contre, évidemment, le pouvoir de cette Église orientale.
Ça fait partie du conflit fondamental avec son fils, qui était très attaché à cette Église traditionnelle et à son autorité. Il l'a brisée sur une raison idéologique. Ça n'était pas tout simplement un conflit entre un père et un fils, c'était un conflit sur l'orientation du pays. Je crois que c'est ça la question fondamentale avec Pierre le Grand, la volonté d'arracher son pays non seulement à la barbarie, au retard, mais la volonté de l'arracher à une conception asiatique, orientale, et en faire un pays d'Occident. Et c'est comme ça qu'il a décidé que le patriarcat ne pouvait pas subsister, qu'il a supprimé le patriarcat, et le patriarche était le chef de toute l'Église, au fond de l'Église d'État. Et le Saint-Synode a été une administration, une sorte de ministère des cultes, à la disposition du souverain. Et ça, je crois que c'est une démarche fondamentale. Le patriarcat ne sera rétabli qu'au moment de la révolution de février 1917. C'est bien le signe aussi d'une autre rupture, si vous voulez. Toute la Russie qui a suivi jusqu'en 1917 était sous ce signe de l'occidentalisation de Pierre le Grand.
Alors nous allons revenir dans un instant aux grandes tsars du XIXe siècle qui font constamment référence à Pierre le Grand, et puis à ceux du XVIIIe aussi, à Catherine, évidemment. Mais dans l'immédiate succession, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été très trouble. À la mort de Pierre le Grand, c'est le désordre qui s'installe.
C'est le désordre, et pour une raison extrêmement importante. Il y avait au fond une règle qui s'était imposée avec le temps, pratiquement depuis Ivan le Terrible, c'est que qui a d'ailleurs assassiné son fils,
oui.
Mais ça c'est une autre affaire. Mais l'idée était que le fils succéder au père. Après cet assassinat d'Ivan le Terrible, on a établi une succession légale. Et Pierre le Grand, en faisant tuer son fils, a brisé cette règle et il a considéré qu'on pouvait choisir son héritier. Et il l'a dit explicitement. Il a d'abord confié le pouvoir à cette épouse que vous avez évoquée, qui sera Catherine Ière, l'impératrice Catherine Ière de Russie. Et puis alors après, s'est instauré un immense désordre, c'est-à-dire qu'il y a eu une nièce, une fille, comme on disait, un idiot, un nourrisson. Tout ça se succédait avec ce qui était extrêmement grave, car Pierre le Grand avait gouverné en souverain absolu. Or, ces femmes qui ont gouverné, les deux impératrices Anne, ou la régente Anne et l'impératrice Anne, ont gouverné sous l'influence, je dirais, d'hommes, de favoris. La régente Anne a gouverné sous l'influence, véritablement sous une influence allemande. Et même, les choses se sont rétablies quand sa fille Élisabeth, là on rentrait dans une généalogie rigoureuse, quand sa fille Élisabeth est montée sur le trône, elle a tout de même été sous l'influence des favoris. On peut dire que là, puis est venue, après Élisabeth, elle a mis sur le trône son neveu, elle n'avait pas d'enfant, son neveu qu'elle avait marié avec une petite princesse allemande,
et voilà,
qui sera Catherine II,
Pierre III,
lequel neveu sera chassé du trône par un coup d'État. Et la morale qu'on peut en tirer, c'est que de la fin de Pierre le Grand, 1725, à 1762, c'est-à-dire à la montée sur,
l'arrivée sur le trône de Russie,
le pouvoir se transmet par coup d'État. Et ça, c'est un point tout à fait tragique, parce que c'est exactement ce que Pierre le Grand n'avait pas souhaité, mais ce qu'il a détruit en ruinant la ligne de succession normale. Il a détruit la régularité de la succession et ça a affaibli considérablement la Russie.
Alors à partir de Catherine, évidemment, ce sont tous les grands règnes que l'on connaît et qui se réfèrent constamment à l'héritage de Pierre le Grand et à cette volonté d'arrimer constamment la Russie à l'Occident. En fait.
Absolument. Et Catherine II, Élisabeth Ière, la fille de Pierre le Grand, a été une impératrice remarquable, incontestablement très francophile. Ça a été elle a patronné les arts, elle a patronné tous les artistes qu'elle a fait venir d'Italie et de France. Elle a donné le ton de la mode, mais elle n'a pas eu l'autorité qu'a eu Catherine après, qui se référant encore plus à Pierre le Grand, avait une seule volonté, c'est d'installer la Russie en Europe. Et Catherine II s'est battue pour
allemande, évidemment.
Elle s'est battue pour quelque chose que Pierre le Grand n'avait déjà pas obtenu. Les rois de France ne voulaient pas leur donner le titre impérial. Et c'est Catherine II qui a obtenu des rois de France que la Russie obtienne le titre impérial et qu'elle se situe assez haut dans le protocole européen des chefs d'État.
Et en un mot, qu'en est-il des empereurs d'aujourd'hui ? Est-ce que les successeurs de la période communiste, est-ce que les actuels présidents russes s'inscrivent eux aussi dans la lignée d'un Pierre le Grand ?
Vladimir Poutine, incontestablement, il a un portrait de Pierre le Grand dans son bureau. Il se réclame de lui et je dirais que sa conception des choses est la conception de Pierre le Grand. Medvedev est aussi un modernisateur, mais il n'invoque pas Pierre le Grand, peut-être parce qu'il souhaite des méthodes plus douces.
Je vous renvoie évidemment à tous les ouvrages d'Hélène Carrère-Dancausse de l'Académie française sur la Russie, sur ses tsars, Nicolas II, Catherine II, évidemment votre biographie de Lénine, l'Empire de Razi, tout ça, c'est chez Fayard. Merci infiniment d'avoir été des nôtres.